De signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération. Et elle les condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération. Et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi,
Seigneur. Cet évangile, Seigneur, vient effacer nos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle se retrouve avec des gens qui viennent me voir, et puis de plus en plus, et qui sont de plus en plus nombreux. Et puis, ils sont tellement nombreux que les gens s'amassent, alors une masse de gens, ils s'amassent autour de lui. C'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose. Sort de son cœur et puis dit sa vision se manifeste et puis dit que la génération est mauvaise. C'est à ce moment-là, c'est curieux, les prophètes, les faux prophètes, c'est le contraire. C'est beaucoup, beaucoup de gens. Hein. Et quand il y a beaucoup de monde, on dit, alors on commence à être content. C'est-à-dire vraiment ces gens, on commence à rentrer dans l'espérance pour moi, parce qu'on est nombreux à comprendre que je suis un prophète. Non, Jésus c'est le contraire. Jésus c'est le contraire. C'est ça qui est très curieux et très étonnant, parce que à partir du moment où les gens s'amassent autour de lui à tel point qu'il était étouffé, c'est à un moment, comme le disent les apôtres ou l'Écriture. Alors Jésus se met à dire que cette génération est une génération mauvaise, parce que dès qu'il y a beaucoup de monde, c'est qu'il y a la recherche du signe quelque part. On recherche des signes. On recherche du sensible. Ça c'est bon. Ça c'est forcément. Et dès qu'on se retrouve seul, c'est que voilà quelqu'un qui cherche. Qui ne cherche pas à donner des signes, n'est-ce pas? C'est ça. Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de classique. Hein. Quand on nous donne des cours de théologie dans les universités, et puis, et ben on nous dit toujours que Jésus, c'est vraiment le passage, quelque part, de la religion du peuple, de la masse. À la religion, à la foi personnelle. on passe. Alors, il y a la magnification de Dieu dans la personne. Tandis que dans l'Ancien Testament, c'est la magnification de Dieu dans le peuple. Et les deux ne sont pas du tout contradictoires, remarquez bien. Alors, à partir du moment où on se retrouve devant le signe lui-même, le signe du Père, le signe du Fils, et puis le signe du Saint-Esprit, sacrement. C'est pas mauvais, bien sûr, qu'on soit plusieurs, qu'on soit nombreux. Et puis qu'on s'unisse, il faut s'unir à la masse de ceux qui sont sauvés. Et de plus en plus, et toujours de plus en plus. Et il faut comprendre que cette masse de ceux qui sont sauvés, de laquelle nous n'excluons personne, vitalement nous n'excluons personne, et bien à ce moment-là, c'est notre vocation personnelle qui apparaît. Et nous sommes seuls en face de Dieu. C'est ça. C'est ce qu'on disait, par exemple, lorsque on parlait du sacerdoce royal. Quand on parlait de sacerdoce royal, vous voyez bien que le prêtre qui dit la messe, eh ben, tout son effort intérieur dans la charité, dans la foi, c'est de faire que ce soit pas, je vais dire, ça, lui qui dit la messe, quoi, mais que ce soit lui et en même temps. Mais en conscience, il faut diriger son intention, l'intention de son cœur pour ça, si vous voulez, son intention, sa dilatation de l'âme. Mais il faut qu'en conscience, ce soit la personne du Christ qui soit là, en train de dire la messe. Et c'est ce qui lui est demandé le jour de l'ordination. Et toi, s'effacer de manière que ce Jésus, la personne de Jésus qui passe à travers lui, le grand prêtre éternel, et à travers la personne de Jésus, toutes les messes de tous les temps qui sont redites ici, la messe du curé d'Ars est redite ici. Toutes les messes du curé d'Ars, les messes de Saint Jean dans la petite ermitage où il disait la messe à l'Immaculée, la veille de son Assomption, est dite ici, toutes les messes de tous les temps, dans les mains de Jésus. Jésus sort. Et toutes les communions sont là. Jésus est allé dans toutes les bouches, des milliards de bouches, des centaines de milliards de fois. Le prêtre s'unit à tous les prêtres et tous ceux qui ont dit la messe en tant que prêtres, ceux qui sont au ciel, ceux qui sont au purgatoire, ceux qui sont la surface de la terre, actuellement se retrouvent dans cet instant à la fois éternel et temporel où c'est la messe. C'est tous les prêtres, tous, dans l'unique prêtre selon l'ordre de Melchizedek. C'est toute une masse de prêtres. Et du coup, ceux qui sont ici, en train d'assister à cette messe-là, c'est une messe formidable. On a un pot monstrueux d'assister à cette messe catholique. C'est ça, la messe catholique, c'est ça. C'est ça que ça veut dire, catholique. Ça ne veut rien dire d'autre. Alors, si je suis tout seul, rendez compte, on est 8000 dans la paroisse. Et je suis la seule pratiquante de la messe du dimanche. C'est pas grave, jamais la Sainte Vierge ne dit c'est horrible, je suis la seule pratiquante de toute l'Asie mineure. jamais, c'est du tout, c'est pas du tout. Si elle a dit nous sommes tous sauvés, puisque nous assistons tous à la messe, puisque, comprenez bien, elle se dit. Le sacerdoce royal, c'est ça. Il est également catholique. Et derrière, en vous, en chacun d'entre nous, en chacune des personnes, en fait, quand on dit la messe, c'est Jésus qui est seul. face à toi et qui est seul. Mais en toi se rassemble toute la Jérusalem céleste. Toute la Jérusalem céleste est là. Et tu l'incorpores. C'est une espèce d'incarnation. À chaque fois que j'assiste à une messe, tu es l'incarnation de la Jérusalem céleste. Où tous les croyants, sauvés, aimés, rédemptorés, glorifiés par le Christ, sont là et assistent à cette rencontre nuptiale du grand prêtre, selon l'ordre de Melchizedek, et de l'épouse. Ça, c'est quelque chose, je trouve, de tellement fort, de tellement étonnant. À ce moment-là, on comprend très bien que quand Jésus se trouve devant des gens qui réclament des preuves, qui réclament des choses visibles, qui réclament des choses qui forcent la conviction, historiquement, eh bien, il dit ça, c'est une génération mauvaise. Et je trouve que c'est grand, cette histoire de Jésus. Hein. Il vient réveiller en un seul soir toute la création. Et ce qu'il y a de, que je trouve tout à fait extraordinaire aussi, c'est ce phénomène donc substantiel, comme dit Ruiz Brecht, l'admirable, super substantiel. C'est super substantiel, ça vient de Ruiz Brecht, l'admirable. C'est pas du tout moderne de dire super. Super, ça vient de Ruiz Brecht, l'admirable. C'est très ancien, super. Ah, oh, super, voilà. Super trop, je pense. Mais super substantiel. Donc, déjà, quand tu dis que c'est substantiel, c'est super. Alors, super substantiel. Super substantiel. Ah, ben oui. Non seulement chaque fois qu'on vit super substantiellement d'un sacrement, c'est ce qui se produit, c'est ma personne qui apparaît, c'est la personne du Christ, et toute cette masse universelle à la fois de tous les temps et de tous les lieux et de l'éternité qui vit cette unité spontanée, glorieuse, de manière unique. Et qui fait que je produis par ma pauvre liberté une gloire éternelle et une multitude de gloires accidentelles. Et on avait lu hier dans l'Apocalypse des pierreries. Toutes les pierreries, c'est moi qui les produis dans cette unité. Et c'est à travers moi que ça se passe. Non seulement Jésus fait ça à chaque messe, mais en plus il permet cette surmultiplication. Parce que ça se refait. Je peux être celui qui reproduit, qui enfante cette perle des millions de fois dans ma vie. Produire cela des millions de fois dans ma vie, c'est ça la vie chrétienne, quelque part. C'est immense d'être touché par la foi vive, le sacrement de l'amour de Dieu dans la très sainte Trinité et de la Jérusalem céleste. C'est évidemment beaucoup plus grand que le fait de voir un immense prophète, Jonas. C'est vrai, tu as raison, Jésus. C'est pas moi qui dirais que Jésus a tort. C'est immense. Salomon, il avait la sagesse, une connaissance admirable, une culture étonnante, une intuition sur la nature, sur l'histoire, sur l'humain, sur le divin. étonnante. Et pourtant, la tradition dit bien qu'il y a deux grands malheurs dans l'humanité. C'est Salomon et Judas. C'est les deux prototypes de l'erreur et de fruits de l'orgueil. Parce que finalement, vous savez que Salomon a très mal terminé. Il a terminé avec une masse de concubines. Et puis, Judas, il a terminé avec une masse de désespoir. Tandis que l'amour contemplatif me fait découvrir que je suis une personne écoutant que Dieu est dans ma main et que je suis dans la main de Dieu. Et qu'il y a cette espèce de sacerdoce. Et ça, c'est grand, c'est immense. Or, pour aller voir Salomon, on venait de très loin. Et puis, Jonas, le traître. Jonas, c'est le prophète traître. Parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas obéir au Saint-Esprit. Il ne veut pas obéir à la volonté du Père. Il ne veut pas obéir à la tradition mystique du peuple de Dieu. Il ne veut pas rentrer dans la doctrine infaillible de l'Église. Il ne veut pas prophétiser. C'est extraordinaire, le livre de Jonas. C'est nous, quoi. On ne veut pas rentrer dans la Jérusalem céleste, dans le cœur sacré de Jésus, dans le cœur humain du Dieu créateur et glorificateur de tout. On ne veut pas rentrer dans l'amour parfait. Et on est un peu Salomon aussi, vous savez, parce que du coup, on veut accumuler un certain savoir stupide qui fait gourmand. C'est évident qu'à chaque fois que vous assistez à la messe, nous assistons évidemment à quelque chose d'infiniment super, substantiellement infiniment plus grand que la plus grande des expériences humaines. C'est évident. C'est même pas obligé de la foi, ça. C'est l'objet de la foi, c'est ce qu'on ne voit pas, parce que ça, on le voit. Espèce, cause vidette, non-espèce, l'espérance. Oh, c'est en latin. Espèce, cause vidette, non-espèce, l'espérance. Des choses qui se voient, ce n'est plus espérer. Espérer, chose qu'on voit, c'est ne plus espérer. Et voir, croire, ce qui est évident, ce n'est plus croire. C'est l'évidence que mais recevoir le feu du baptême et puis vivre de cette spontanéité sacerdotale, c'était évident que c'est plus grand que tout. C'est une chose tellement facile. Alors on va demander à Jésus de sortir de cette génération mauvaise qui est en nous et puis d'accepter cette conversion. Conversion, c'est-à-dire ce fait que notre intelligence, au lieu d'être au service de notre savoir, de notre domination des choses, elle soit entièrement purifiée et qu'elle devienne intelligence par elle-même et qu'elle, du coup, elle puisse être entièrement au service de la personne, de l'éternité et de l'amour. Notre intelligence doit abdiquer son orgueil pour devenir intelligence pure et être au service de l'amour. Il faut se convertir. Il faut se convertir. Les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront, puisque eux se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Alors convertissons-nous et devenons humbles, petits, pauvres, et acceptons de rentrer dans la doctrine immaculée, infaillible, supersubstantielle du Christ, dans son corps mystique, pour engendrer avec lui la Jérusalem céleste.